sur le parvis du TGI et devant ses futurs juges, Monsieur Patron a éprouvé comme le besoin de parler de lui. Dès le début, les proches du chef de l'État ont condamné le mouvement. Pendant que Michel Mercier, ministre de la Justice, reçoit les syndicats, Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, réclame de la part des magistrats un peu de compassion. Et François Baroin, porte-parole du gouvernement, évoque une des corporations qui a le plus de mal à assumer sa part de responsabilité. François Fillon, Premier ministre, rappelle que le drame de Pornic procède de dysfonctionnement. Le président de la République a entendu la souffrance de la famille, répondu à l'émotion des Français, mais les magistrats n'ont pas fait preuve de la même compassion. Les victimes polarisent l'attention, guidant l'action publique, servant à justifier les mesures qu'on prend en leur nom. Par ces déclarations, le gouvernement révèle la logique du discours compassionnel sécuritaire. Le monopole de l'émotion donne le droit de nommer les gens à problème. Empathie digne d'éloge? Récupération politicienne? Instrument de pouvoir? En 2005, pendant l'affaire Nelly Crémel, à un journaliste qui lui parlait de la colère des magistrats, Nicolas Sarkozy avait répondu qu'il s'intéressait d'abord à la colère des victimes. Christian Frémont, son directeur de cabinet à l'Élysée, rapporte que, lorsque le président reçoit les familles, il établit avec elles un lien presque charnel. Il sait trouver les mots pour les apaiser. Inversement, dans son autobiographie, le juge Thiel cite la lettre qu'il a reçue de la mère d'une des victimes d'un tueur en série, le 9 février, en pleine fronde des magistrats. « Je vois tous les jours les victimes caressées dans le sens du poil. Je vois les victimes leurrées, utilisées, récupérées parfois. Ce n'est pas une bonne justice présentée par le pouvoir, c'est une caricature de justice. » Le même jour, Charlie Hebdo publie un dessin représentant Nicolas Sarkozy en vautour avec l'un des bras de Laetitia dans le bec. En légende, démembré par un barbare, récupéré par un charognard. On est libre d'interpréter le mouvement des magistrats comme un réflexe d'autoprotection, le malaise d'une profession moins bien considérée aujourd'hui qu'il y a 30 ans. On peut considérer que leur grève traduit la réaction d'une caste, offusquée qu'on ose porter atteinte à son impérium. On peut juger que, arc-boutée sur sa dignité, elle est devenue hypersensible à tout ce que dit un président dont l'audace consiste précisément à bousculer les corps constitués, à déranger les routines. On peut feindre de croire, au contraire, que tous les juges sont rouges ou que les syndicats tirent les ficelles. On a le droit de dire, plus prosaïquement, que les magistrats ont voulu faire passer un message à propos de leur manque de moyens. On peut aussi tenter de relier la fronde de 2011 à la fronde du milieu du XVIIe siècle, quand les magistrats et les grands seigneurs s'étaient révoltés contre la montée de l'absolutisme et la remise en cause de leurs privilèges. Mais, quand on sait que les magistrats, substituts du procureur, juges d'instruction, juges des enfants, juges aux affaires familiales, juges d'application des peines, travaillent toute la journée, parfois le week-end et la nuit, soumis à la loi du toujours plus vite, toujours moins cher, dans un contexte de paupérisation et de mépris de la part des décideurs, pour tenter d'assurer ce service public qui consiste à faire appliquer la loi, à protéger les gens, à soulager l'énorme misère que notre société produit. Quand on sait que leur métier exige une capacité d'écoute, une ouverture à autrui, un respect de l'humain et même une forme d'altruisme, on peut estimer que les propos du Premier ministre sur leur manque de compassion tiennent de l'injure. Le lundi 14 février, les syndicats appellent à la reprise des audiences, le rapport d'inspection ayant mis les magistrats hors de cause malgré les carences dans l'organisation des services et la circulation de l'information. Les reports sont maintenus dans de nombreux tribunaux et cours d'appel, mais un certain essoufflement est perceptible, les juges promettant d'inscrire leur mouvement dans la durée. À Nantes, les audiences reprennent le 17 février, jour de la deuxième rencontre entre Nicolas Sarkozy et Monsieur et Madame Patron. L'ancien propriétaire du Barbe Blouse, Alain Faurie-Santerre, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir étranglé et démembré sa compagne. Le 18, l'activité est normale au TGI de Rennes. C'est la fin du mouvement, un mois tout juste après la disparition de Laetitia.